Chapitre 13. Sur une chaise damassée de rouge, qui évoquait un trône, une femme au port royal examinait sa cour. Ses cheveux couleur corbeau étaient maintenus sur sa tête par des peignes noires. Un collier de rubis ceignait au plus près son cou. Sa robe de soie noire contrastait avec la pâleur de son teint et le rouge de ses lèvres. Impossible de deviner son âge, tant son visage était lisse. Quant à ses yeux verts émeraudes, il s'en dégageait une profonde sagesse. L'arrivée d'Henri et de Belle ne passa pas inaperçue. Des regards furent échangés parmi les danseurs, ainsi que des murmures discrets. Le duc salua cette dame d'une révérence. Se relevant, il déclara : « Comtesse, permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Belle du Château de la Bête. Mademoiselle la Comtesse des Terres des Morts. »
« C'est un honneur de vous rencontrer, Comtesse, » enchaîna Belle avec une révérence.
Elle brûlait de lui poser mille questions, mais craignait de le faire en présence d'une si grande foule. La maîtresse des lieux jaugea Belle d'un œil acéré. « Tout l'honneur est pour moi, mademoiselle. Je me réjouis de votre présence. Nous avons tant à nous dire. » La musique reprit, lui coupant la parole. Belle reconnut les premières notes d'une passacaille.
« Ma danse favorite !» s'exclama la comtesse. « Dansons, ma chère enfant ! Nous aurons tout le temps de parler quand nous serons épuisés. »
Aussitôt, ou presque, un homme vint s'incliner devant la comtesse. D'une taille imposante, ce personnage avait le torse recouvert de médailles. Il conduisit la maîtresse des lieux sur la piste de danse. Henri l'imita, offrant ses services à Belle, qui commença par hésiter. Elle se demandait si tout cela était bien réel. Un sourire engageant aux lèvres, le duc déclara :
« Vous avez toujours voulu vous affranchir du carcan de la vie provinciale. Je me trompe ? On ne se retrouve pas plongé dans une histoire captivante tous les jours. Profitez-en, Belle !»
Sur la piste, les danseurs s'alignaient face à face, échangeant rires et sourires. Tous avaient le rouge aux joues. L'orchestre joua plus fort. La musique redoubla d'intensité. Belle ne put résister à l'appel. Les minutes qui suivirent passèrent en un clin d'œil. Les frottements des mains, le tourbillon des corps, le martèlement des talons sur le parquet, c'en était enivrant. Le cœur de Belle battait au rythme de la passacaille. Sensation de légèreté et de liberté. Quand la danse s'acheva, la jeune femme était tout essoufflée. Henri la raccompagna s'asseoir au bord de la piste afin qu'elle se remette. En chemin, il croisa une connaissance, un comédien de Londres.
« Édouard et sa troupe sont à Paris pour une création de Hamlet » expliqua-t-il après avoir présenté l'intéressé à Belle.
« Vraiment ?»
s'enthousiasma la jeune femme.
« J'adorerais y assister. Hamlet est à mes yeux une des meilleures pièces de Shakespeare, supérieure à Macbeth et Othello. »
« Tiens donc !» ironisa Édouard, un rien méprisant.
« Une jolie fille comme vous, j'imagine que vous ne connaissez de ce chef-d'œuvre que la réplique « Être ou n'être pas, c'est la question. »
Belle bouillit intérieurement. À Villeneuve, elle avait eu affaire à ce genre de prétentieux, elle savait comment réagir.
« Qui va là ? »
déclama-t-elle de sa voix la plus profonde.
« Je vous demande pardon, » fit Edward.
« Vous aurez sans doute reconnu la première réplique de la pièce, monsieur. Donnez-moi la suivante et alternons jusqu'à ce que l'un de nous commette une erreur. Voulez-vous ?»
La proposition avait été épiée. L'idée se répandit comme une traînée de poudre.
« Un duel !»
murmura une dame.
« Un duel de théâtre !»
enchérit sa voisine.
« Ne dites pas de sottises !» nargua Edward. « Je suis un comédien, spécialiste de Shakespeare. Ma réputation n'est plus à faire. Vous ne réussirez qu'à vous ridiculiser. »
Le regard d'Henri s'embrasa.
« Venez donc, Belle !» déclara-t-il. Monsieur Edward redoute manifestement l'épreuve.
Pas du tout,
se récria l'intéressé. Puis, à Belle.
Quand vous fondrez en larmes après avoir perdu,
ne venez pas vous plaindre, je vous aurais prévenu.
Ne vous inquiétez pas,
lui assura la jeune femme. Le comédien prit alors une profonde inspiration avant de relâcher son souffle. Il ferma les yeux, appuya deux doigts sur ses tempes et déclama.
C'est à vous de répondre.
Halt! Qui êtes-vous?
Vive le roi!
Enchaîna Belle, un petit sourire aux lèvres.
Bernardo?
Lui-même?
Parfaitement à l'heure.
Minuit. Va te coucher, Francisco.
Edward perdait de son assurance. L'angoisse le gagnait. L'échange de répliques continua sans anicroche. Les danseurs se pressaient pour suivre le défi, tandis que le comédien et la jeune femme passaient d'une réplique à l'autre, d'un personnage à l'autre, sans l'ombre d'une hésitation. La scène 1 fit place à la scène 2. La sueur perla sur le front d'Edward. Le rouge montait aux joues de Belle. Son sourire s'élargit. Son cœur s'emballait d'excitation. Hamlet était la pièce préférée du père Robert. Combien de matinées et d'après-midi pluvieux avaient-ils passé ensemble à en réciter le texte? L'homme d'église endossait parfois le rôle d'Hamlet, brandissant un balai en guise d'épée. D'autres fois, il était Gertrude, un torchon noué sur la tête. Belle pouvait incarner Ophélie un jour, Laërte le lendemain. Cette pièce, elle aurait pu la réciter en dormant. Après la scène 2, vint la scène 3. Edward venait de se lancer dans la grande tirade de Laërte à Ophélie lorsqu'il se trompa dans le texte. Belle prit le relais, corrigea l'erreur et acheva sa performance par une révérence. Quand elle se redressa, un tonnerre d'applaudissements l'accompagna.
« Et voilà, monsieur, »
conclut-elle fièrement, « ce qu'une jolie fille connaît de Shakespeare. » Edward la salua par une révérence crispée, reconnaissant sa défaite sans panache, puis il tourna les talons. Henri se précipita auprès de Belle.
Oh, « Félicitations! Vous l'avez remis à sa place, ce snob méprisant !»«
Henri !»
s'indigna presque Belle.
« Excusez-moi, mais c'est la vérité !»
Un maharaja s'approcha de la brillante comédienne. Il s'inclina devant elle et lui réclama la passacaille suivante. Belle accepta. Ils dansèrent. La jeune femme enchaîna menuet, allemande et volte pendant une heure. Tout le monde la demandait. Entre deux cavaliers, elle allait s'entretenir avec des peintres et des professeurs. Elle riait avec les philosophes. Elle fit la connaissance d'un prince marocain, d'un explorateur, de retour du Pérou, d'un sculpteur viennois. L'impératrice douairière de Chine l'invita à visiter la cité interdite. Enfin, quand elle fut à bout de force, elle sentit un bras se glisser sous le sien.
« La trame de vos pantoufles se voit-elle déjà ?»
l'interrogea la comtesse, les yeux luisants de gaieté. Belle releva ses jupons et observa ses souliers. On devinait très bien les orteils à travers le tissu délicat. Elle se hâta de les cacher. Elle rougissait jusqu'aux oreilles.
« Magnifique !»
approuva la comtesse.
« C'est le signe que mon bal est réussi. »
Ces mots dits, elle entraîna son invité vers une terrasse.
« Allons prendre l'air, mon enfant. Cela me fera le plus grand bien. »
La dame s'éventait en parlant. Son parfum diffusait autour d'elle ses effluves épicées et riches. Belle était certaine de l'avoir déjà senti quelque part. Mais où ? Un domestique leur ouvrit une porte-fenêtre. L'homme était un vrai colosse, affublé d'yeux de rat et d'un gros nez crochu. Il s'inclina au passage de sa maîtresse. Son vêtement, une livrée noire ornée d'une collerette blanche.
J'ai beaucoup entendu parler de vous, Belle, déclara la comtesse en quittant la salle de bal. Je sais que vous êtes une grande lectrice, que vous rêvez de voyager et...
Une pause, le temps de jauger son interlocutrice.
Et que votre situation actuelle n'a rien de plaisant.
J'espère que cette soirée aura égayé tant soit peu votre cœur.
Pardonnez-moi, comtesse, mais comment êtes-vous au courant de toutes ces choses? Nous venons à peine de nous rencontrer.
La jeune femme éprouvait la même gêne que tantôt auprès d'Henri. La comtesse éclata de rire.
Nous sommes à Paris, cher enfant. Les nouvelles circulent vite et je connais tant de monde. Tôt ou tard, il n'est personne que je ne finisse par rencontrer. Tout le monde passe par Nevermore.
Mais qu'est-ce au juste que ce Nevermore? Comment tout ceci...
Elle désignait du geste le château, les invités, les lanternes, les cerisiers.
Comment tout ceci a-t-il été créé ?
Grâce à la magie des histoires, naturellement, répondit la comtesse avec un sourire humble. L'auteur de Nevermore, c'est moi, voyez-vous. Et ce livre n'est pas comme les autres. Il renferme quantité d'histoires. Mais celle que nous sommes en train de vivre, oh, belle, celle-ci, je l'écris uniquement pour vous.
En quel honneur ?
La maîtresse des lieux n'entendit pas la question. Toutes deux venaient d'atteindre le bout de la terrasse, où un détail capta son attention.
« Oh, les rafraîchissements ont été servis » annonça-t-elle. « Enfin !»
D'un geste ample de la main, elle désignait un buffet alléchant.
« Allons voir ce que mes cuisiniers nous ont préparé. Je meurs de faim !»
Des mets raffinés étaient disposés sur des tables tendues de lin blanc et décorées de guirlandes de roses et de lilas. Des bouteilles de champagne patientaient dans des seaux en argent fin. Un bol de cristal contenait du punch pétillant. Des pâtisseries s'offraient sur des plats de porcelaine, non loin de pyramides de fruits confits. Lâchant le bras de son hôte, la comtesse lui demanda
« N'est-ce pas absolument divin ? Mon chef pâtissier est le meilleur de Paris. Servez-vous donc !»
La jeune femme se laissait déjà tenter par les macarons, alignés par couleur sur un plateau d'argent. Elle en saisit un au chocolat et mordit dedans. Aussitôt, ses paupières se plissèrent de plaisir. Elle allait s'en accorder un deuxième, quand un scarabée écœurant vint se poser sur les biscuits. L'insecte émit un sifflement en direction de Belle, qui retint sa main en poussant un cri. La créature avait le gabarit d'une pomme, un corps noir luisant, des ailes irisées et deux cornes pointues sur la tête. Deux de ses congénères se promenaient sur une tarte à la framboise. Leurs pattes s'enfonçaient dans la crème pâtissière. Ils avaient détourné les petits fruits pour dessiner des lettres sur la nappe blanche. Belle découvrit le message. Trois choses dégustées, l'amour est terrassé. Trois choses égarées, un prix exagéré. La comtesse lut ces mots elle aussi. Son regard s'embrasa de colère.
Immonde vermine ! Cracha-t-elle.
Dans le même temps, elle tentait d'écraser les scarabées à l'aide de son éventail replié, mais ne parvint qu'à renverser un monticule de pâtisserie. Celles-ci s'écroulèrent sur d'autres plats et assiettes avant de finir leur course par terre.
« Mouchard !»
s'égosilla la comtesse. L'imposant serviteur en tenue noire apparut aussitôt.
« Tue-les !»
leur ordonna leur maîtresse d'une voix glaciale.
« Tue-les tous !»
Le personnage se mit en chasse, tandis que les serviteurs nettoyaient les dégâts et regarnissaient le buffet.
« Je ne sais que dire, ma chère !»
bredouilla la comtesse.
« Une part de tarte vous siérait-elle ? Un millefeuille, peut-être »
Belle avait perdu l'appétit, profondément troublée par l'intervention des insectes. « J'ignorais que les scarabées savaient écrire, » déclara-t-elle.
« Leur message m'interpelle. Que signifie-t-il ?
Rien du tout ! Ce n'est que charabia ! Ces êtres appartiennent à une femme. Elle a perdu la tête et, parfois, ces créatures lui échappent.
« Et cette dame fait partie de l'histoire ?»«
J'en ai peur, oui. Elle fait partie de l'histoire de tout le monde, hélas. »«
Est-elle dangereuse ?» frémit Belle.
« Au plus haut point, elle est folle alliée. On la reconnaît à ses cheveux blonds argentés, son teint hâlé et sa longue robe blanche. Vous devez l'éviter à tout prix. »«
Je n'y manquerai pas, » conclut l'invité.
Un serviteur vint proposer un plateau de macarons. La comtesse s'en empara et enchaîna.
« Mais oublions ces désagréments. Reservez-vous, mon enfant, je vous en prie. »«
Merci, comtesse, mais je ne peux, »
s'excusa Belle.
« On m'attend à dîner. Je dois rentrer. »
Sur la terrasse, en retrait de la musique et des danses, elle avait davantage conscience du temps écoulé. Madame Samovar lui avait préparé un repas.
« Vous m'envoyez navrée, Belle ?»
dit la maîtresse du château.
« J'ai eu plaisir à discuter avec vous. »
« Le plaisir a été partagé. Je vous remercie d'avoir organisé ce bal proprement magique. de m'avoir permis de faire partie de Nevermore, ne serait-ce qu'une soirée.
Rien ne vous empêche d'y revenir, mon enfant. Cette histoire vous appartient. Retrouvez-la quand vous le souhaiterez.
Ces mots dits, la comtesse serra Belle contre son cœur. Lorsqu'elle se dégagea, une de ses bagues s'accrocha à une mèche de cheveux de la jeune femme, lui en arrachant quelques-uns.
Aïe !
Grimaça Belle.
Oh, ma pauvre petite,
je vous demande pardon.
Ce n'est rien, ne vous tracassez pas.
Monsieur Henri va vous raccompagner, conclut la comtesse en voyant le duc approcher.
Puis, tandis que les jeunes gens s'éloignaient, elle enroula autour de son doigt les cheveux pris à Belle. Son regard se mit à luire, son sourire s'assombrit. Henri reconduisit Belle jusqu'au pied de l'escalier où attendaient les carrosses. Puis, ils s'engagèrent ensemble dans la longue allée. Le livre demeurait à l'endroit où Belle l'avait laissé, près du portail. Ses pages chatoyaient toujours. La lectrice n'avait qu'à s'engouffrer à l'intérieur pour regagner le château de la bête.
« Je regrette que vous ne puissiez rester, » dit Henri. « La soirée vous a-t-elle plu ?»«
Énormément, » affirma la jeune femme.
« Dans ce cas, vous reviendrez. »
Invitation ou ordre ? Belle n'aurait su trancher, et le duc ne lui en laissa pas le temps.
« Vous avez des amis ici, ne l'oubliez pas. Et j'en fais partie. »
« Merci. Merci pour tout. »
Un ultime au revoir, et Belle franchissait Nevermore. Le passage fut si rapide qu'elle ne put voir le sourire qu'Henri afficha, ni l'entendre murmurer « Nous vous attendrons. »